On en dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. On célèbre cette année le centenaire de sa mort. Ce sera le 10 juin prochain. Pierre Loti a sillonné le monde toute sa vie. Un officier de marine qui, au gré de ses missions, de ses amours, de ses dessins et évidemment de ses écrits, qu'il s'agisse de ses reportages ou de ses romans, a partagé avec ses lecteurs sa passion de la découverte et des différences culturelles, s'inquiétant souvent de l'uniformisation du monde, s'indignant parfois de la violence des hommes. C'est sur les traces et dans le sillage de cet étonnant voyageur que nous emmènent aujourd'hui nos trois invités à travers un passionnant album de bande dessinée qui nous conduit de l'île de Pâques au Japon, de l'Égypte au Pays Basque, en passant par l'Inde, Tahiti, Constantinople, le Sénégal, au dessin. Pascal Rognaud, au scénario, deux frères, l'un agrégé d'histoire, l'autre de lettres, Alain Kellavillégé et Didier Kellaguyot. Pierre Loti, une vie de voyageur, est paru chez Calman Lévy Graphique et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Merci
Bonjour.
Beaucoup d'être avec nous. Alors, Alain Kellavillégé, Didier Kellaguyot, pas besoin d'être grand clerc, vous êtes frères.
Ouais, jumeaux même.
Frères jumeaux, vous êtes tous les deux titulaires du doctorat et de l'agrégation, l'un en histoire, l'autre en lettres modernes. Lequel d'entre vous a fait découvrir Pierre Loti à l'autre?
C'est plutôt Alain.
C'est plutôt Alain.
J'ai obligé de l'avouer que c'est
donc
moi.
C'est plutôt l'historien qui a fait découvrir aux lettrés, si j'ose dire, l'écrivain. Oui,
disons que c'est un historien passionné de littérature et lui est un lettré quand même passionné d'histoire. Donc ça
tombe bien. Vous étiez fait en fait pour vous rencontrer,
ouais, si j'ose dire.
Voilà, vous êtes rencontrés très vite. Alors Alain Kellavillégé, c'est un petit peu comme pour Omar Sharif et les courses, quoi. Pierre Loti, c'est un peu votre grande passion, hein, si j'ose dire. La question va peut-être vous paraître dérisoire, mais pour quelle raison ceux qui nous écoutent devraient-ils, s'ils ne l'ont pas encore fait, découvrir Pierre Loti?
Ça, c'est une question difficile. Les réponses sont multiples. Ça dépend des personnes et il peut y avoir des motivations très, très variables. Je crois tout simplement que Pierre Loti est aujourd'hui un écrivain qui mérite d'être lu, qui n'a pas complètement vieilli, qui laisse des romans intéressants, des récits de voyage et de reportages tout à fait étonnants. C'est une personnalité moderne dans sa vie privée, dans la maison qu'il aménage à Rochefort. Donc, c'est un témoin du monde. Donc, on a de bonnes raisons aujourd'hui d'aller vers lui parce qu'il a des questionnements qui sont encore les nôtres.
Par quel ouvrage commencer ?
Ah ben ça dépend de la personne qui me pose la question. Donc je ne vous connais pas assez pour vous donner la bonne réponse. Ça peut être par les romans.
Moi j'ai commencé par Pêcheur d'Islande.
Ah ben c'est peut-être votre, je ne sais pas, est-ce que vous avez un côté breton?
Un petit côté, oui un petit peu, j'ai un petit peu de sang breton dans les veines. Si on monte un peu loin, mais un petit peu quand même.
Si on a un intérêt pour, je sais pas, la vie maritime, pour l'orientalisme, pour le Japon, etc. Donc je guiderai vers tel ou tel roman. Si on est du Pays Basque, je conseillerais Ramuncho. Si... Voilà, donc... J'ai tendance à penser, en termes d'histoire littéraire, que les romans comme Asiade ou Madame Chrysanthème sont des textes assez étonnants qui méritent d'être découverts. Mais Loti a peut-être été meilleur dans le reportage.
Bon, et vous, Pascal Rognaud, vous êtes un lecteur de longue date de Pierre Loti?
Moi, j'avais lu Pêcheur d'Islande à l'école, comme tout le monde. Puis après, j'avais un peu laissé tomber l'affaire. Et rencontre avec Alain et Didier a fait que je me suis un peu remis. Mais moi, ce que je préfère, c'est plutôt ses récits de voyage. Son livre sur la Chine me plaît énormément. C'est plutôt ce genre de choses que je préfère.
Alors, Didier Kellaguyot, vous êtes un scénariste de bande dessinée. C'était donc assez logique, finalement, d'adapter la vie de Pierre Loti en BD. Comment vous est venue l'idée?
Alors, l'idée n'est pas venue de nous, pour le coup. Elle est venue de l'éditeur. Je crois bien que c'est l'éditeur Calman Lévy qui a proposé à Alain, qui travaillait avec eux, d'imaginer quelque chose en bande dessinée autour des voyages de Pierre Loti. Ça ne paraissait pas du tout évident, d'abord parce que les voyages sont très nombreux et que ça va dans tous les sens.
C'est considérable. C'est une somme d'informations incroyable.
Si on ne nous avait pas proposé de sujet, je ne sais pas si on l'aurait nous-mêmes créé. C'est pas sûr du tout. On aurait peut-être ponctuellement fait, pourquoi pas, des incursions dans certains types de ces voyages, pourquoi pas. Mais l'idée de les raconter globalement, comme ça, dans un seul volume, ce n'était pas évident. Donc la tâche a été compliquée. Lui connaît bien sûr le sujet par cœur et on a du coup pu trier, élaguer, aller vers l'essentiel, ne pas se répéter, parce qu'il y a des pays dans lesquels il est allé plusieurs fois. Donc il ne s'agissait pas non plus d'y revenir constamment. Donc il a fallu faire des choix. Beaucoup de choix, et puis et de représenter quand même à travers l'album la diversité de ses voyages, de ses contacts, de sa connaissance du monde, etc.
Alors l'histoire commence à Rochefort le 27 juin 1913. Rochefort, c'est sur la côte ouest de la France, sur la côte atlantique, en face de l'île d'Oléron, dans le département de la Charente-Maritime. C'est là que vous êtes nés tous les deux.
Ça explique l'intérêt qu'avait Alain notamment pour l'écrivain Pierre Loti. Nous, on a baigné dans l'existence de Pierre Loti, dans un port effectivement maritime, etc. Et de fait, je ne sais pas si on a lu très tôt ces romans, mais forcément, je veux dire, ça faisait partie d'une culture un peu locale.
Moi, oui, Alain qui l'a viagé.
Je suis plus venu par la Turquie, parce qu'on est allé en Turquie étant ado aussi, et que les romans turcs de Loti m'ont plutôt fait entrer dans le côté récit de voyage, orientalisme, histoire d'amour, définitive. Et puis, c'est après que je suis allé vers d'autres textes plus autobiographiques, ou plus les autres romans et l'ensemble des récits de voyage. Mais le Loti voyageur, ça a été la clé.
En tout cas, c'est le Loti de Rochefort hein, qui démarre votre narration. Rochefort, c'est là que réside cet homme qui accueille en sa modeste demeure une princesse, rien que ça, la princesse Alice de Monaco, épouse séparée, mais épouse quand même de son Altesse Sérénissime, le prince Albert Ier. Comment ces deux personnages se sont rencontrés à la Quai-la-Vierge ?
Oui, alors c'est à la fois une clé du point de vue du scénario, mais c'est tout simplement une vérité. Régulièrement, Alice, d'abord de Richelieu, ensuite devenue de Monaco, et ensuite, effectivement, ayant repris sa liberté, a été une amie sur une longue durée, dès les années 1880 avec Pierre Loti, une histoire d'ailleurs d'amitié amoureuse hein, de part et d'autre, et elle venait régulièrement à Rochefort le voir. Ils se sont rencontrés bien sûr à Paris, dans le château qu'elle possédait dans la Sarthe, etc., ou à Monaco justement. Donc il nous a paru que cette femme était le bon go-between, si vous voulez, pour mettre en place le scénario et le faire parler, parce que c'est sans doute une de celles à laquelle il s'est le plus confié.
Voilà, frère d'âme, c'est
oui,
l'expression
exactement
utilisée par Pierre Loti dans l'album.
La question au départ était effectivement d'imaginer, pourquoi pas, des chapitres indépendants, des voyages indépendants. Et l'existence de cette femme, c'est Alain qui a pensé autant que je me souvienne, nous a permis de faire un récit lié, où il se raconte, etc.
Leur conversation, donc, c'est le fil rouge
voilà.
de
votre récit. Et ça permettait d'éviter, effectivement, d'abord, ça permet de poser des questions. Elle peut poser des questions qui amènent des réponses et qui permettent des transitions, etc.
Donc elle joue un peu le rôle du Candide, d'une certaine façon.
Exactement. Ouais, et à une date authentique, puisque le mois de juin 1913, c'est la dernière visite qu'elle fait à Rochefort, puisqu'elle est l'année d'après, il y a la guerre et elle ne reviendra plus. Donc, on est à la fois dans le vrai et en même temps, ça permettait de créer
une fiction.
Et puis,
il est déjà assez âgé pour faire le bilan de tous ses voyages, d'un certain nombre de ses voyages.
Alors, c'est à Rochefort que commence effectivement votre récit, Pascal Regnault. Vous dessinez Loti en train d'accueillir avec beaucoup de galanterie son amie Alice à sa descente de voiture, une sorte de calèche. Déjà, le personnage, comment est-ce que vous pourriez nous décrire le visage de Pierre Loti, tel que vous l'avez dessiné?
Ah, j'ai surtout pas essayé de le faire ressemblant. Enfin, j'ai pas. Le but n'est pas de faire quelque chose de très réaliste. Du coup, je l'ai un peu idéalisé, en fait. Voilà, donc, on sait qu'il avait les cheveux très ras, des choses comme ça, une moustache. Et j'ai fait une espèce de version qui est la mienne, en fait. Il ressemble pas du tout, en fait, aux photos. Mais c'est pas très grave. Ce n'est pas le sujet, en fait.
Alors, on le voit conduire la princesse Alice dans un salon où ils partagent tous deux une tasse de thé. Alors là, pour le coup, on a vraiment sur la page 7 de l'album presque un tableau, quoi, d'une certaine façon. Comment vous avez imaginé et à partir de quels éléments vous avez imaginé cette planche-ci, Pascal Regnault,
page 7. Et ben, pour cette page-là, Alain m'avait donné une image qui représentait ça, en fait. Mais,
c'était donc le salon de la maison Pierre Loti à Rochefort.
Voilà, mais il n'y avait personne dedans, donc il a fallu que je mette les personnages, rajoute la théière, etc. Mais le problème qu'il y avait, c'est que c'était une très vieille image, donc je n'avais pas de détails au niveau du plafond. J'ai dû inventer plein de choses, en fait, de façon à faire quelque chose d'assez riche, d'assez... Mais tous ces détails-là, en fait, n'existent pas. C'est une espèce de bouillie noire, la photo tellement vieille qu'il a fallu que j'invente des choses pour arriver à... Et Alain avait peu de docs. Il existe peu de docs de cette pièce-là, en fait.
Oui, alors Didier Quélaguillot, c'est intéressant parce que c'est un récit biographique. Donc tout ce qui est raconté dedans est vrai. Mais graphiquement parlant, il y a quand même une place à laisser à l'imagination.
Alors il y a deux éléments dans lesquels on est obligé d'imaginer, par le dessin d'une part, bien sûr, et aussi dans les scènes où ils se parlent, où les personnages se parlent, puisque là, pour le coup, leur dialogue.
Les dialogues sont purement fictifs.
Voilà. Pas totalement fictifs.
Enfin, vous l'avez imaginé à partir de la réalité.
Voilà, et puis un certain nombre d'éléments qu'on fait dire à Pierre Loti sont des choses qu'il a écrites plus ou moins de cette façon, etc.
Oui.
On a voulu restituer à la fois sa littérature, c'est-à-dire qu'il y a de larges pans de ses écrits, reportages, romans, etc. Et puis, dans la partie, et on ne pouvait pas se cantonner effectivement à des pavés de textes, mais en même temps, pour montrer la qualité de son écriture, le côté poétique de son écriture, c'était quand même très tentant. Et par contre, le biais des dialogues, des scènes effectivement dialoguées, ça permet là de s'échapper des récits de Pierre Loti, de ce qu'il a écrit, et d'inventer un petit peu autour sans trahir du tout la vérité de ce qu'ils disent, quoi.
Quoi,
chanson de l'île de Pâques, Rapa Nui, comme on l'appelle, l'île de Pâques, qui est la première escale de Pierre Loti dans votre narration, donc dans l'album que vous publiez chez Kalman Lévy Graphique, Alain Kélavilléger, Didier Kélaguillot et Pascal Regnault. Alors on voit d'abord les mouettes, hein, on voit trois marins sur le pont d'un bateau, et ensuite à la page 11, Pascal Regnault, dessin plein de pages avec un ciel très grand. Il pleut, le ciel avec les nuages prend quasiment les deux tiers de la planche, hein, c'est impressionnant. Et devant les nuages se découpe la silhouette du bateau. Et puis l'île qui a l'air toute petite par rapport au navire. Pourquoi est-ce que vous avez donné autant de place au ciel sur cette planche?
Parce que l'avantage du roman graphique, c'est qu'on peut avoir de l'espace. Dans un album traditionnel, ça aurait été une case tout en longueur. Et là, je pouvais m'étaler sur une page, du coup, avoir de l'espace, beaucoup d'espace, faire. Et puis laisser toute la place pour le texte de Loti,
oui,
qui était aussi le but.
Donc deux tiers, hein, à peu près, pour le ciel. Et puis le tiers suivant, ce sont évidemment les flots. Vous avez choisi d'ailleurs de faire plusieurs planches uniques qui prennent donc toute la hauteur de la page. Mais sauf erreur de ma part, la plupart du temps, sur la page de droite, il y a une raison particulière?
Non,
c'est un hasard total.
C'est
un hasard total.
Ça s'est fait comme ça, suivant le texte que j'avais, en fait. J'aménage, mais...
Vous avez construit un synopsis très précis.
Alors, il y a plusieurs réponses. Il ne dit pas tout, Pascal. Au départ, le scénario faisait... Au départ, le scénario faisait 90 planches et c'était un découpage beaucoup plus serré.
Storyboard très précis.
Ah oui, de toute façon, oui, découpage, case par case, quand je parle de planche, on savait par quelle case on commençait, par quelle case on terminait la planche, etc. Mais Pascal a eu besoin, et il a négocié ça avec l'éditrice, d'avoir un petit peu plus de place pour s'offrir justement des pleines planches, des découpages beaucoup plus... Donc une part du découpage qui d'habitude revient plutôt au scénariste, il se l'est largement approprié, ce qui permet effectivement à ces pages de se développer, de se multiplier. Avec une petite remarque concernant les pages de droite, comme vous dites, oui. Les pages impaires, ce sont des pages en bande dessinée essentielles, puisque c'est celles qu'on tourne. Et donc, en matière de scénario, ce ne sont pas des pages indifférentes.
Et voilà, donc on est à l'île de Pâques pour démarrer le premier voyage avec ces beaux-ci.
On nous a fait sur cette terre isolée les récits les plus étranges. Certaines gens prétendent qu'on pourrait bien nous y manger et qu'une corvette russe ayant mouillé récemment dans la baie de Cook, les indigènes attroupés sur la plage s'opposèrent par la force au débarquement des visiteurs. D'après ce que les gens nous disaient à Valparaiso, on n'y trouve plus que quelques tristes sauvages, affamés et craintifs, qui vivent de lichen et de varech. Enfin, suivant l'opinion la plus accréditée à bord, la race indigène s'est éteinte. L'île n'est plus qu'une grande solitude au milieu de l'océan, habitée seulement par ces vieilles statues de pierre. Rapa Nui est le nom donné par les indigènes à l'île de Pâques. Et rien que dans les consonances de ce mot, il y a, me semble-t-il, de la tristesse, de la sauvagerie et de la nuit. Nuit des temps, nuit des origines ou nuit du ciel, les moindres choses dans cette île désolée soulèvent des interrogations sans réponse.
Alors ces mots qui sont réellement ceux que l'on lit en découvrant la BD, Alain Kélavilléger, ce sont les mots mêmes de Pierre Loti.
Ce sont les mots mêmes de Julien Viau, qui n'est pas,
voilà,
encore,
voilà,
Pierre
il n'est pas encore Pierre Loti.
Et qui est donc un jeune homme qui arrive avec les idées préconçues que l'on vient d'entendre et l'impression d'arriver sur une terre effectivement qui est en déshérence avec une population qui est en train de disparaître. Bien sûr, il n'est pas le premier à arriver sur l'île de Pâques. D'abord, il est à bord d'un navire dont il est un simple officier de marine très, très ordinaire. Mais ce navire a une mission qui est notamment de rapporter une statue en France. Donc, c'est une mission scientifique. Et ce qui est intéressant avec Julien Viau, qui deviendra Pierre Loti, c'est qu'il a très vite, une fois sur le terrain, où il passe 4-5 journées seulement, il se rend compte évidemment que ce qu'il vient de dire là, de ce qu'il vient d'entendre, est en partie faux. Et il prend en même temps pitié pour une population qui est en train de, en tout cas, menacée de disparaître. Et là, tout de suite, il a une capacité à se mettre en rapport avec les gens, à être parmi eux, à dessiner à la fois les statues, mais les populations, les tatouages, à faire des reproductions des tablettes, des écritures.
Donc il regarde, il prend des notes, il dessine en permanence.
Il a un comportement d'ethnologue, j'allais dire, ouais. Très spontané.
C'est d'abord la curiosité, son moteur principal.
C'est la curiosité, et une curiosité d'une grande, grande ouverture d'esprit, mais qui passe par la relation directe avec les gens. Hein, ce n'est pas un scientifique qui observe de l'extérieur, il se met parmi eux. Mais
petit à petit, ce comportement changera au cours de sa vie, parce que sa célébrité, la distance qu'il pourra prendre avec l'écriture, etc., fait qu'il changera de posture. Mais là, il est extrêmement à la fois sincère, naïf, spontané, et tout l'outil est là déjà.
Oui, mais dès le départ, effectivement, on a un peu l'impression qu'il est pas très à l'aise, puisqu'il y a effectivement cette mission, donc emporter une des statues de l'île de Pâques, la ramener en France, ce qui évidemment n'est pas évident avec la taille et le poids. Il a presque un peu honte de le faire.
C'est plus qu'un peu. Lui, il a 22 ans, c'est un jeune homme encore très très peu mûr, mais il a tout de suite conscience qu'on est en train de commettre un crime.
Crime de lèse-sauvagerie, c'est l'expression qui figure dans l'album.
Dit, et il dit un peu plus loin d'ailleurs qu'en matière de sauvagerie, justement, ce sont les peuples civilisés qui en ont fait preuve.
Oui, mais il met le mot civilisé entre guillemets. Entre ça guillemets. Aussi, graphiquement, c'est très très fort. Il le mettait entre guillemets réellement.
Et réellement, c'est dans son texte.
Julien Viau, alias Pierlotti.
On n'a jamais trahi la pensée de Lotti, ouais. Dans les citations que nous donnons. Et en même temps, ça préjuge de ce que sera son attitude anticolonialiste, son souci de la diversité des cultures, son souci de voir les peuples, justement, ne pas disparaître sous la férule des autres.
Cette peur de la civilisation qui annihile, effectivement, les traditions, les cultures, ça, c'est une angoisse qu'il a jusqu'à la fin de sa vie.
Ouais. Oui, alors c'est vrai que d'un bout à l'autre, on a, en fait, cette attitude qui, avec notre regard d'aujourd'hui, peut sembler assez ambiguë. Il appartient au camp du colonialisme, il appartient aux blancs colonisateurs, il ne doute pas de la supériorité occidentale, mais il s'efforce d'avoir de la considération, de l'estime, du respect, parfois de l'admiration pour ceux qu'il appelle les indigènes. Alors le mot indigène à l'époque est pas forcément, doit pas forcément regarder avec les yeux d'aujourd'hui. Pour
le mot ne pose pas de problème, ça veut dire les populations nées sur place, les locaux.
Mais les autochtones, pourrait-on dire.
Oui, autochtones, c'est synonyme. Simplement, quand vous dites qu'il ne doute pas de la supériorité occidentale ou européenne, si, il en doute, justement. Et je crois que c'est là où il est intéressant, Lotti, c'est qu'il est dans le doute. Il n'y a pas cette conscience d'une Europe qui doit dominer le monde. Il est défenseur de la francophonie, il est tout à fait ouvert à l'idée du développement commercial, des échanges, tout ce qu'on veut. Mais il ne porte jamais un discours qui doit porter atteinte justement à la différence des cultures, à la dignité des populations, que ce soit le tourisme ou le colonialisme, et il s'en méfie beaucoup.
Mais alors, dans ce contexte-là, pourquoi avez-vous eu besoin de placer un avertissement en tête de votre récit pour inciter justement le lecteur à prendre du recul et à ne pas verser
alors, c'est une mise
dans
en garde, l'anachronisme. C'est une mise en garde de l'éditeur, mais en même temps, elle vise plus le rapport de Lotti aux femmes que le rapport de Lotti à la politique coloniale.
Alors c'est en tout cas avec cet avertissement que l'on peut découvrir l'album et qu'on peut aussi découvrir les différents textes que vous publiez parallèlement à Alain Kélavillégé avec Bruno Vercier, c'est toujours chez Calman Lévy, un recueil de reportages en fait intitulé « Le monde en passant ». Comment avez-vous sélectionné ces textes?
Très difficile, comme disait Didier tout à l'heure, pour sélectionner les voyages et les épisodes les plus significatifs de sa vie. Dès lors qu'il a écrit tout au long de sa vie des articles envoyés à la presse, que ça a donné parfois de longs récits de voyage publiés en volume, mais pas toujours, il fallait à la fois trouver un fil conducteur qui est une écriture d'abord, il s'agit d'un écrivain et on parlait bien de littérature, qu'il y ait un regard d'un bout à l'autre, un regard porté sur les autres, pas forcément sur lui-même, parce que c'est souvent le cas des récits de voyage. Et puis, il y a une diversité, c'est-à-dire que Lotti parle aussi bien de l'Afrique noire que de l'Asie, que du Japon, il va à Damas ou il va à Jérusalem. Enfin bon, il nous fallait, ou à New York, et on voulait aller jusqu'à la période de la Grande Guerre, où il évoque par exemple Venise, etc. Donc, c'était un travail difficile de choisir et d'éliminer surtout, parce que beaucoup d'autres textes valaient la peine, évidemment. L'idée était un peu de réunir les grands reportages, alors pas forcément grands parce qu'ils sont volumineux, mais parce que ce sont des textes qui marquent à un moment donné le regard occidental sur le reste du monde et qui, par rapport aussi à ce qui est la biographie de Lotti, sont des marqueurs très significatifs.
Comment le titre « Le monde en passant » s'est-il imposé ?
Alors, il s'est imposé facilement parce qu'il y a deux textes de Lotti qui ont cette construction-là, notamment un texte sur la mer Rouge qui s'appelle « Obok, virgule, en passant ». Il y a deux ou trois autres textes où Lotti met « virgule, en passant ». Et puis, il y en a un autre où c'est « Passage de Sultan ». Il y a cette idée donc, qu'on a reprise en quelque sorte, mais qui est aussi intéressante parce que c'est un peu l'idée d'un regard qui est fugitif, qui tend pas à être...
On a presque l'impression de superficialité et ce n'est pas du tout ce que l'on ressent en lisant.
Non. Parce que, vous savez, c'est toute la question de la littérature de voyage. Est-ce qu'on dit plus de choses si on a vécu 10 ans dans un pays que si on y restait 3 heures? Tout ça, cette affaire de perspicacité, d'observation, de posture, de qualité littéraire. Loti fait partie plutôt des... Alors, ce qu'on appelait avec mépris parfois, justement, de la littérature d'escale, celle qui passe. Bon, quand même, souvent, il séjourne des semaines, des mois durant. Et il a un regard plus approfondi.
Et parfois, mais il retourne.
Lui-même a un peu cette théorie que, justement, lorsqu'on reste trop longtemps, on oublie. On ne porte plus attention aux choses. Et qu'en revanche, lorsqu'on reste, qu'on arrive brutalement et qu'on reste peu de temps, on a un choc, évidemment, esthétique, visuel, ethnographique, etc., qui va donner une littérature intéressante. Alors, l'idée de passage ne signifie pas superficialité, ça signifie plutôt choc des civilisations. Alors, c'est ce qui restitue littérairement.
Découvrons un court extrait de ce recueil. Nous sommes dans le chapitre consacré à la musique et à la danse au Sénégal, texte publié par le journal L'Illustration en 1875.
Un instrument très simple et réservé aux femmes remplit dans cet ensemble un rôle important. C'est simplement une gourde allongée, ouverte à l'une de ses extrémités, objet qu'on frappe de la main, tantôt à l'ouverture, tantôt sur le flanc, et qui rend ainsi deux sons différents, l'un sec, l'autre sourd. On n'en peut tirer rien de plus, et le résultat ainsi obtenu est cependant original. Il est difficile de se rendre compte de l'effet que peut produire le concert lointain des voix nègres à demi couvert par des centaines de semblables instruments. Les bamboulas, pour lesquels les Noirs sont très passionnés, s'organisent avec beaucoup de pompe les jours de grandes fêtes. Les femmes mettent pour de telles circonstances de riches pagnes et des draperies éclatantes. Elles se couvrent de bijoux d'or, d'argent, de verre, d'ambre et de corail. Mais souvent aussi, ces danses s'improvisent. Un griotte qui passe frappe quelques coups sur son tam-tam. C'est le rappel et on se rassemble autour de lui. Des femmes accourent qui se rangent en cercle serré et entonnent un de ces chants qui les passionne. L'une d'elles, la première venue, se détache de la foule et s'élance au milieu du groupe. Elle danse avec un bruit de gris-gris et de verroterie. Son pas, lent au début, s'accélère bientôt jusqu'à la frénésie. Elle se retire enfin, épuisée. Une autre prend sa place et ainsi de suite, jusqu'à ce que la fatigue de la nuit ait mis fin à la danse.
Alors Didier Quélaguyot, question à l'agrégé de lettres que vous êtes, quel regard, quelle oreille portez-vous sur le style, sur l'écriture de Pierre Loti?
C'est peut-être ce sur quoi on ne voulait absolument pas laisser le lecteur s'échapper en tout cas, c'est la qualité littéraire, le côté poétique, la musique. Alors pour le coup là, ça parle de musique dans cet extrait, mais chez Loti, il y a un souci du rythme de la phrase, du choix des mots, je veux dire, il y a une poésie de son écriture, de l'image, de la métaphore. Donc, ce n'est pas quelqu'un seulement qui raconte, mais il le raconte d'une façon effectivement qui mérite une attention. Pour le littéraire, en tout cas, pour le lecteur qui apprécie le jeu des mots, c'est effectivement un écrivain exemplaire.
Mais il raconte avec un regard d'ethnologue là, dans cet extrait. C'est ça, est-ce que vous diriez que c'est un ethnologue ou un explorateur, Alain Quélaviyé?
Explorateur, non, parce que l'explorateur arrive sur des terres vierges et il est le premier à venir. Loti est un grand voyageur. Là, il est un officier de marine en mission. Donc il est parmi d'autres, mais son regard est neuf. Son regard est neuf. Donc il y a une dimension ethnographique dans la manière d'observer. Il y a cette façon d'écrire qui est aussi très sensible à l'instantané, à l'atmosphère, hein, à ce qui est fugitif. Et puis qui essaie de restituer justement ce qu'on appelle pompeusement l'altérité. Donc ses premiers reportages sont d'ailleurs pas signés, sont parfois accompagnés d'un dessin. Donc le dessin a son importance aussi. Comme pour le compléter, on revient à la question du dessin. Loti a fait du... Sans le savoir, il a commencé à faire du roman graphique. Et ces textes-là, évidemment, ont vocation à toucher évidemment un lectorat. Et donc des textes qui ont quand même une sorte de cahier des charges. Plus il va aller dans la vie et devenir un écrivain célèbre, important, etc., plus il sera libre de son écriture, il va développer, il va écrire autrement. C'est là encore, on est 2 ans après à peine l'île de Pâques, on est encore dans Julien Viau, justement, pas encore dans Pierre Loti.
Alors, un écrivain, un observateur, un dessinateur aussi, est-ce que c'est un aventurier aussi, Didier Quélaguyot? Je pense par exemple à la scène de l'album où on le voit, alors on est au Pays Basque avec les contrebandiers. Là, pour le coup, il va sur le terrain et il prend des risques.
Ouais, mais je reprendrai...
C'est pas Jean-Paul Belmondo, mais quand même.
Je reprendrai quand même ce que disait Alain, c'est pas un aventurier dans le sens où il est pas tout seul, là non plus, il est dans un groupe. C'est pas quelqu'un qui va là où d'autres ne sont pas allés. Là, il est effectivement dans une expédition, on va dire, nocturne, etc., pour faire du trafic.
Donc c'est très particulier. Je ne crois pas que ce soit un aventurier, il ne prend aucun risque. Quoique dans certains voyages, quand même, il va... Et hors de son métier d'officier, il va prendre
il prend des congés pour faire des voyages, voilà. Comme le voyage en Inde ou en Perse. Ou dans le Sinaï, sont des voyages qui n'étaient pas simples à réaliser. Et alors, ce n'est pas un casse-cou, hein, c'est un voyageur qui quand même s'entoure d'une équipe d'hommes souvent armés, qui a des domestiques, avec des guides, etc. Mais tout le voyage, là, il part pour l'Inde et la Perse, c'est un voyage de plus de 7 mois. Hein, c'est quand même un sacré périple. Après aventurier, on dirait des voyages qui ne sont pas ceux du tourisme, justement, qui ne sont pas ceux des agences tout confort.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà, et ils voyagent de façon d'ailleurs inconfortable. Mais pour autant, c'est pas un risque tout, et en tout cas, oui, pas un explorateur, oui.
VMDN sur RFI avec Alain Quellaviléger, Didier Quellaguyot et Pascal Regnault pour leur album de bande dessinée Pierre Loti, une vie de voyageur chez Calman Levy Graphique, avec une chanson, on l'a entendu, qui nous emmène à Tahiti. Alors Tahiti, c'est une étape importante pour Pierre Loti, ne serait-ce Alain Quellaviléger que parce que c'est de ce séjour-là que vient son nom de plume, que vient le nom de Loti. Vous nous racontez ?
Oui, effectivement, juste après l'étape sur l'île de Pâques, il arrive toujours comme un officier de marine, à bord d'un navire français. Et il séjourne quelques mois à Tahiti. Et c'était une tradition. Hein, les suivants de la reine Pomare IV baptisaient volontiers les jeunes officiers qui venaient les séduire. Et lui bénéficie du mot Loti, Roti, c'est un R roulé, et qui désigne une rose ou un laurier rose. Il y a un petit débat de vocabulaire à Tahiti là-dessus. Et par la suite, il va évidemment l'adopter pour lui-même. Alors bien sûr, le R roulé, il va le transformer en L, Loti, parce que en R roti, c'était pas génial.
Oui.
Mais c'est un nom de fleur, et ça, oui. Ça désigne. Il était d'ailleurs à bord de la fleur. Bon, c'est assez curieux.
Petit clin d'œil de l'histoire, oui.
Oui, et puis Loti est passionné par les fleurs. Sa maison à Rochefort va en être emplie. Et donc, après, c'est un pseudonyme qui va lui servir pour se cacher. C'est un premier déguisement aussi. C'est un déguisement, un pseudonyme d'un nom de plume, mais qui permet aussi à cet officier de marine d'écrire sous un nom d'emprunt sans avoir demandé l'autorisation de publier.
Donc, Julien Viau devient donc Pierre Loti. On a expliqué le Loti. Alors, Pierre, c'est assez mystérieux, Didier Quellaguyot, parce que vous dites dans la bande dessinée, Pierre, pour diverses raisons. C'est ce qu'Alice lui pose la question et il lui dit « Oui, Pierre, c'est pour diverses raisons. » Moi, je suis curieux,
alors,
c'est quoi les diverses raisons ?
Je pense qu'Alain va répondre sur les diverses raisons. Ce que je voudrais dire, par contre, c'est l'opposition entre la pierre, ce qui est lourd, et puis le loti, la fleur qui est léger. Il peut aussi avoir fait un choix, là encore, de un jeu de mots, entre ce qui est du lourd, ce qui est du terroir, et puis ce qui est du domaine du plus léger avec la fleur.
Alors, Didier Quellaguyot a donc lancé la pierre, si je veux dire,
Pierre sur cette pierre, c'est quelque chose de très biblique, il est de culture protestante, ça joue aussi. Il est né rue Saint-Pierre à Rochefort, ses origines maternelles, c'est Saint-Pierre d'Oléron. Il y a le fameux Pierre Lecor qui a inspiré le personnage de Mon Frère Yves, donc des pierres, ça manque pas. Il n'aimait pas, en tout cas, son prénom Julien. Donc, il a choisi un nouveau prénom et il a choisi un nom d'auteur. Voilà, les deux se construisent. Pierre Loti est né en 1800, pas en 72, puisqu'il n'y a que Loti en 72, mais quelques années plus tard, lorsqu'il met un nom complet sur un livre, c'est Pierre Loti.
Voilà, donc Loti, c'est la rose. C'est donc un auteur de nom de rose qui a publié un peu plus tard, on parlait des fleurs, Madame Chrysanthème, alors, qui se passe au Japon. Alors, au passage, on apprend d'ailleurs que c'est lui qui a introduit le mot mousmé. dans la langue française.
C'est incroyable. C'est attesté. Voilà.
Voilà, c'est attesté. Alors, c'est vrai que la scène japonaise, elle est vraiment magnifique. Vous êtes beaucoup amusé à orientaliser, justement, certaines scènes. Alors, il y a les scènes en Turquie, mais il y a aussi les scènes japonaises qui ont vraiment un cachet très particulier, Pascal Regnault.
Ah oui, j'ai essayé un peu de coller au truc, mais c'est intéressant à faire, justement, ce côté oriental. Ça m'a... Comme j'allais beaucoup avoir de choses après à Rochefort, etc. Donc j'aimais bien justement sortir un peu de tout ce côté un peu franchouillard.
Et vous vous êtes basé justement sur les dessins de Pierre Loti eux-mêmes pour définir vos décors en particulier et puis les différents personnages qu'il rencontre. Par exemple, on peut penser à Okane-san, donc cette mousmée pour le coup, hein, qu'il a rencontrée au Japon.
En partie, mais pas toujours. Souvent, j'aimais bien aussi chercher des choses par moi-même, de façon à avoir quelque chose de plus personnel, de plus à moi, quoi.
Alors, c'est aussi l'histoire d'un homme à femme que vous nous racontez à travers cet album, Didier Quélaguyot.
Pardon, j'ai
pas entendu. Homme à femme.
Ah oui, ça c'est incontestable.
C'est incontestable, sauf qu'il y a certaines personnes qui disent cacher son homosexualité. Alors,
on peut se poser la question. Il a aussi peut-être aimé des hommes, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a énormément aimé les femmes, ça c'est incontestable. Et il a su les décrire, il a su les mettre en œuvre, dans le sens où dans ses romans, les héroïnes sont nombreuses et toujours très très bien décrites et très bien mises en scène, que ne serait-ce qu'Asiadé. Donc un homme à femme, ça c'est incontestable, oui.
Comment est-ce que vous avez dosé justement dans votre récit la part entre le voyage en lui-même, la part de littérature aussi, et puis la part d'intime, de vie privée?
On l'a dosé très simplement parce qu'on a intitulé le livre justement « Une vie de voyageur ». Dans la mesure où on voulait nous raconter sa vision, non pas des femmes ou des femmes du monde, on l'a fait quand même ici et là, de toute façon, mais on voulait mettre l'accent sur sa vision des cultures, des traditions, de ce qu'il découvrait, donc de ses voyages proprement dit. Il y aurait un livre, à la limite, complet à faire sur sa vie amoureuse, mais après, c'est tout à fait plus...
Comment dire, oui. Alors, on en croise dit... quand même quelques femmes dans l'album,
oui, sûr, oui, oui.
À laquelle a villégé. Par exemple, on évoquait son roman Asiyade, paru en 1879. C'est Akije, le personnage...
Ouais. Oui, son véritable nom.
Qui l'a inspiré. Alors ça, c'est une histoire extrêmement romanesque, la relation entre Loti et...
Pour répondre à votre observation, Loti fait lui-même le lien entre voyage et amour ou femme. C'est-à-dire qu'un des moyens d'entrer dans une culture, c'est non seulement d'apprendre la langue, c'est bien sûr d'y vivre la vie quotidienne des gens ordinaires, mais c'est aussi d'y vivre avec une femme. Donc les femmes font forcément partie du voyage et du paysage en quelque sorte. Ensuite, certaines vont avoir un rôle plus important parce qu'elles deviennent le sujet de ruines romanesques. Mais à partir d'une histoire vraie, dans le cas d'Asiadé, effectivement, il y a Loti, que ce soit à Thessalonique et puis ensuite à Constantinople, a noué une relation avec une jeune femme et qui est authentifiée et qui était sans doute musulmane, en tout cas la femme d'un harem. Et puis bien sûr qu'il a dû quitter, puisque en tant qu'officier de marine, il a bien fallu rentrer en France. Et le désespoir de cet homme qui était amoureux fait qu'il se transforme en écrivain. Il en fait de la littérature à son retour. Son premier roman, il est né de cette histoire d'amour qui va l'accompagner d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie.
Et derrière Pêcheur d'Islande, il y a aussi une histoire de femme.
Oui, il y a une histoire de femme. Le personnage de Gaud est en fait inspiré par la sœur d'un des marins qui est un des héros du roman et qu'il avait voulu épouser. Dans le cas de Madame Chrysanthème, ça c'est un peu moins amoureux et érotique parce que c'est plus un mariage arrangé de quelques semaines qui était le résultat d'un contrat dûment signé avec les autorités portuaires, donc une forme de prostitution légale avec des basses castes. C'est une affaire. Donc c'est de l'amour très décristallisé. Mais cette femme, elle joue un rôle du point de vue romanesque et de la connaissance avec le
Japon.
Oui,
on pourrait même ajouter, vous disiez un homme à femme, je crois que c'est un homme qui aime aimer de voir les femmes. Il tombe souvent amoureux, ce qui est un fait. Et je pense qu'il est aussi amoureux des femmes qu'il rencontre que des paysages ou des décors qu'il découvre. Je crois et de la même façon, au bout d'un moment, il se dépassionne pour ce qu'il a découvert. Mais il passe effectivement, il y a une succession de ces différentes vies.
Ben, je crois que c'est ce qu'on résume sur la formule. C'est Hubert Juin qui disait « L'autiste est à la fois un goinfre et un gouffre ». Et donc, il y a effectivement le gouffre parce que c'est le côté angoissé, le côté obsédé par la mort et que tout finit, que tout disparaît, que tout passe très vite. Mais le goinfre parce qu'il y a un appétit de vie qui n'est jamais assouvi. In a confusing cloud, remember it's just a passing storm, sister. Nothing to worry about.
times when I wanna scream out with pain. Deception after deception. Everything I do seems to go down the drain. Life teaching me a harsh lesson. And when I abandon all willpower, a wind of change whispers into my ears. Don't you dare give in, even if you're falling. The heart of the battle, the greater the victory. You're gonna make it, God willing. You're gonna make it. It's a matter of time. It's gonna make it, God willing, and the tables will turn your way.
Table Will Turn est la voix du chanteur sénégalais Fada Freddy dans VMDN sur RFI avec Alain Kélavi-Léger, Didier Kélaguillou et Pascal Rognaud pour leur album Pierre Loti, une vie de voyageur chez Kaman Levy Graphique. Alors c'est une tradition dans cette émission, Pascal Rognaud, quand on reçoit un dessinateur de bande dessinée, on lui demande toujours de décrire la couverture de l'album et d'expliquer comment il l'a conçu. Alors c'est toujours un travail important, la couverture, parce que évidemment c'est ce qui peut inciter les lecteurs à ouvrir l'album et peut-être même à l'acheter. Comment vous l'avez imaginé cette couverture?
Ah, j'en ai fait au moins 12, alors c'est compliqué. En fait, je voulais donner une notion toujours d'espace et de voyage. Et d'où cette multitude d'éléments que j'ai regroupés un peu partout, tout autour des deux Pierre Loti, où on le voit à la fois jeune et à la fois âgé, de façon à ce qu'on puisse avoir une période assez large sur l'album.
Voilà, donc il y a d'un côté donc le Pierre Loti jeune, avec donc sa vareuse et sa casquette de marin, qui regarde vers la gauche, on va dire vers l'ouest, pour parler voyage. Ouais. Et puis, donc, il y a la grande statue du Moai d'île de Pâques, au milieu. Et puis, adossé à cette statue, il regarde donc... son visage est tourné vers l'est, pour le coup, mais son regard nous regarde nous directement en face. Le vieux Pierre Loti avec sa moustache et sa barbe très fin 19e siècle.
Oui, c'est une histoire de montrer le temps qui passait à travers tout l'album, en fait. D'avoir les deux personnages, le même personnage deux fois dans la couverture.
Alors le Moai au milieu, entre les deux, pour quelle raison?
J'avais besoin d'un élément en hauteur.
Oui.
Non, mais
en plus, particulièrement impressionnant. Voilà, en plus, son visage se détache, c'est une sorte de rond jaune qui figure le soleil.
Et puis graphiquement, c'était joli à utiliser. Donc ça s'imposait d'office.
Bon, le bateau... juste en dessous, c'était aussi une évidence avec les flots. Et puis après, on a un peu l'impression justement que vous avez choisi quelques éléments archétypaux des différents pays qu'il a traversés.
Oui, d'où les pyramides, un peu du Bosphore, un peu de culture japonaise. J'ai fait un mix de tout ça, de façon à ce qu'on ait une espèce de panel de ce qu'il a pu traverser.
Voilà, et petit clin d'œil sur la quatrième de couverture. Cette fois, on est en Inde. Alors, décrivez-nous ce petit dessin-là. C'est un petit clin d'œil, mais c'est un choix d'éditeur. Pourquoi est-ce que vous avez décidé justement l'éléphant?
Je crois que même c'est plutôt Alain qui y tenait, parce que c'est un dessin que j'ai fait en fait pour mettre sur la petite biographie qui est à l'intérieur à la fin. Là.
Ouais, le petit dossier à la fin de l'album,
où on a tout un petit périple à travers deux pages. De tout ce qu'il a, partout où il est passé. Ce petit éléphant plaisait beaucoup à l'Inde, du coup, on l'a remis en dernière.
Oui, c'est une question de l'Inde aussi.
Voilà.
Oui. Alors. La couverture, elle est dans des teintes jaunes, ocre. Alors ça, c'est intéressant parce que vous avez choisi de faire un récit avec une forme de bichromie, puisque des scènes charnières, donc avec Pierre Loti âgé et la princesse Alice de Monaco, sont dans une tonalité bleutée, alors que pour le voyage, vous êtes plutôt dans des teintes ocre, jaune, parfois qui tirent un petit peu vers le marron. Pourquoi vous avez fait déjà le choix de la bichromie et le choix de ces deux teintes-là?
La bichromie, parce que je voulais vraiment bien qu'on sente bien les flashbacks de l'histoire réelle qui se passait en 1913. Et ensuite, j'ai choisi ce couleur-là parce que je voulais une couleur plutôt froide sur la fin de sa vie, quelque chose de plutôt chaud pour Séva, j'étais plutôt jeune. Et donc jonglais comme ça. C'est vrai que des fois, on a aussi des flashbacks dans le flashback, ce qui m'oblige à avoir encore un autre ton de jaune. De façon à ce que ça reste clair pour le lecteur.
Surtout. Voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup de scènes de nuit, mais il y en a une qui se déroule à Constantinople, à partir de la page de la page 52. Comment est-ce que vous avez imaginé cette scène avec Didier Kélaguillou? Elle est vraiment singulière, je trouve, par rapport au reste de l'album.
Mais moi, j'avais le script de Didier, donc je n'ai pas imaginé grand-chose, en fait.
Alors, bah, on va lui poser la question. Donc, ce sont...
Mais j'ai sûrement redécoupé.
C'est Pierre Loti et un personnage, d'ailleurs, un personnage barbu qui s'appelle Badiot, je crois. Hein. C'est,
oui, c'est ça qui sont en déambulation autour du... Pour le coup, je savoir pourquoi on l'a situé de nuit. Et je me demande si, finalement, ce n'est pas Pascal qui a fait le choix. Je crois qu'on était parti sur un décor moins précis et puis qu'on avait retransformé. Par contre, la pleine page avec l'arrière-plan, la skyline, comme on dit, là, de Constantin, Istanbul aujourd'hui, c'était une nécessité pour localiser la scène. Et puis,
c'est à gauche.
Elle est donc à gauche. Pour le coup, là, c'est une pas vague.
Ouais, j'ai dit à droite.
Une pleine planche à gauche, effectivement, d'album, pour une fois, vous voyez.
Comme quoi, franchement. Hein.
Ah, quand oui, je vous disais qu'elle était singulière,
cette
scène.
Il y avait aussi une pleine page, quasiment. Pas tout à fait, oui. Elle est singulière, effectivement. Je pense que c'est un choix, quand même, de Pascal d'avoir joué sur les noirs profonds. Parce que l'eau est très noire, le ciel est très noir. Et ça fait une coupure aussi dans la séquence qui est racontée. Je pense que c'est un choix visuel qui lui appartient en grande partie. Je ne sais pas si j'avais
avec une mise en scène que je trouve très, très moderne, qu'on a presque l'impression que c'est du walk and talk, c'est-à-dire un petit peu. Comme ce qui se passe dans les grandes séries américaines, en particulier dans les séries policières, où on a les flics qui se baladent, qui parlent de l'affaire petit à petit, devant un décor qui change. Mais l'important, évidemment, c'est à la fois le décor pour pas lasser le lecteur et aussi les mots, quoi, l'importance du dialogue.
C'est une scène de déambulation. Ouais. En fait, dans le récit, on est toujours en mouvement. Il y a les voyages qu'il raconte, mais même dans la maison... En 1913, on va d'une pièce à l'autre, d'une salle à l'autre, avec des décors exotiques qui changent en permanence. Et à l'intérieur, effectivement, d'un certain nombre de bulles, il y a une autre scène en Suisse où on le voit se déplacer. Il y a effectivement énormément de mobilité. Melotti a été un nomade impénitent.
Alors, vous mettez d'ailleurs dans les mots, dans ce dialogue, cette phrase-là, donc dans la bouche de Pierre Loti, je cite « Le temps et la débauche sont deux grands remèdes. J'ai pour unique règle de conduite de toujours faire ce qu'il me plaît, en dépit de toute moralité, de toute convention sociale. » Et il ajoute « Je ne crois à rien ni à personne, je n'aime personne, ni rien, je n'ai ni foi, ni espérance. » C'est presque un discours nihiliste, ça.
C'en est un complètement, mais ouais. C'est un discours d'un loti jeune homme encore. C'est l'époque d'Asiade, et effectivement, ce qui correspond bien à son anxiété, à son angoisse de vivre à ce moment-là.
Si jeune et déjà désabusé, de toute façon.
Pas désabusé, il donne une importance énorme au temps qui passe.
Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure du gouffre et du goinfre. C'est-à-dire que ce nihilisme fait qu'il faut profiter de la vie au maximum en dépit de toute convention, comme il le dit.
Il avait besoin de voyager, il avait besoin de se déplacer, il avait besoin de découvrir pour s'enthousiasmer.
Il a besoin de vivre des vies nouvelles, des vies multiples, des vies en parallèle. Et donc le voyage est un des moyens, effectivement, d'expériences nouvelles, de dédoublement, d'avoir d'autres identités, d'avoir des histoires d'amour, tout ce qu'on veut. Et Loti a besoin, effectivement, de ce ressourcement à chaque fois.
Et il choisit d'être marin, ce qui n'est pas non plus une activité très... anodine.
Poser. Voilà, mais il peut poser un regard critique. Par exemple, on le retrouve à la toute fin de l'album quand il lit à Alice un article publié dans un journal en 1911. Nous sommes à la page 137.
Honte à nous tous, peuple dit chrétien de l'Europe. Sur la terre, c'est toujours nous les plus tueurs avec nos paroles de fraternité aux lèvres. C'est nous qui, chaque année, inventons quelques nouvel explosif plus infernal. Nous qui mettons à feu et à sang dans un but de rapine le vieux monde africain ou asiatique et traitons les hommes de race brune ou jaune comme du bétail. Partout, nous broyons à coups de mitraille les civilisations différentes de la nôtre que nous dédaignons a priori sans y rien comprendre parce qu'elles sont moins pratiques, moins utilitaires et moins armées. Aux yeux de l'Europe dite chrétienne, les musulmans de tous les pays représentent un gibier dont la chasse est permise et cette chasse en général lui réussit grâce à la supériorité de ces machines à tuer qui font tout de suite de grands charniers rouges. Et quand nous avons fini de tuer, nous apportons l'exploitation sans frein, nos bagnes d'ouvriers, ces usines destructrices des petits métiers individuels, l'agitation, la laideur, la ferraille, les apéritifs, les convoitises, la désespérance.
On est en 1911, là, alors on a un peu l'impression quand on lit l'album que Pierre Loti était un homme de son temps, mais là, dans ce texte-là, il était un petit peu en avance, Alain Quai-Lavilliers.
Ah, la notion d'avance, elle est toujours relative, mais en tout cas, il fait partie des esprits qui savent anticiper ce que seront les grandes questions du XXe siècle. Ce qui est important dans ce texte, qui est extrêmement percutant, c'est qu'on est loin du Loti colonialiste qu'on nous présente souvent. On est loin, justement, des histoires d'amour et du côté seulement exotique ou orientaliste qu'on a déjà évoqué, qui fait partie, hein, bien sûr, de son histoire. Mais on est loin du loti jeune homme qui était encore naïf. Là, on est un homme mûri, libre de sa parole parce qu'il n'est plus officier de marine, il est à la retraite et qui prend position politiquement sur des questions de politique internationale et qui a une pensée évidemment particulièrement audacieuse.
Oui, il a mal vécu l'expédition du Tonkin aussi. On est quand même 30 ans avant.
C'est peut-être audacieux, mais c'est totalement d'actualité. On a envie de reprendre tous ces mots-là pour les appliquer à toutes les situations qu'on a autour de nous.
Oui, critique aussi du tourisme et du touriste. Alors le touriste, c'est un mot qui me désole, répond-il à Alice. Et puis il y a une autre expression aussi très forte, c'est quand il va en Algérie, il dit « tout est frelaté ».
Oui, Loti a été finalement un défenseur du patrimoine et des identités. Et il dénonce ce que nous appellerions peut-être aujourd'hui la mondialisation, en tout cas une certaine uniformisation du monde, vous l'avez évoqué. Et qu'il soit en Algérie et jeune homme, ou qu'il soit beaucoup plus tard, même au moment de la guerre du Tonkin en 1883, qu'il soit là au moment de la guerre, lorsque les Italiens attaquent par exemple la Cyrénaïque, enfin la Libye, sa pensée de ce point de vue elle est continuelle. Mais même pour défendre les cascades du cirque de Gavarni ou les constructions basques sur la côte, Loti est un défenseur du patrimoine et du respect des cultures. Alors, il y a du passéisme là-dedans parfois aussi, hein, c'est pas toujours novateur, mais c'est aujourd'hui, il s'inscrit dans une pensée qui est patrimoniale, parfois même qui est celle de l'écologie.
Merci beaucoup à tous les trois d'être passés par le studio de VMDN, Didier Kellet-Guyot, Alain Kellet-Villéger, Pascal Rogneau. L'album Pierre Loti, Une vie de voyageur, réédité chez Calman Lévy qui publie aussi Le Monde en passant, reportage de Pierre Loti, réuni et présenté également avec Bruno Versier. Merci. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain avec l'écrivain et dramaturge Jean-Claude Grimbert qui publie De Pitchik à Pitchouk, un conte pour vieux enfants. C'est aux éditions du Seuil dans la collection La Librairie du 21e siècle. À demain et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.